Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence, où je m'entretiens aujourd'hui avec la jeune organiste Alma Bettencourt. Elle donne chaque jour à midi les moments d'orgue du Festival de Rocamadour sur le grand orgue de la Basilique Saint-Sauveur. Il s'agit de mini-concerts gratuits d'une demi-heure, ouverts à tous ceux qui souhaitent y assister. Bonjour Alma Bettencourt et merci d'avoir accepté cette interview alors que vous avez inauguré cette série des moments d'orgue le 18 août.
Bonjour.
Vous êtes une toute jeune musicienne de 21 ans, mais vous avez déjà un parcours très riche, d'autant plus riche que vous menez de front des études d'orgue et de piano. J'ai dans l'idée que votre premier instrument était sans doute le piano. À quel âge avez-vous commencé à en jouer ?
J'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans, et donc c'est en effet mon premier instrument, et j'ai été élevée dans une famille de musiciens, donc j'ai toujours été bénie dans la musique, et donc ça fait vraiment partie de mon éducation dès mon plus jeune âge, et j'ai toujours adoré ça.
L'orgue maintenant, quand est-ce que vous avez commencé à vous y intéresser et à en jouer ?
Alors j'ai découvert l'orgue à l'âge de 9-10 ans lors d'un stage de piano. Il y avait également une classe d'orgue et on m'a proposé d'essayer. Et ça m'a tout de suite beaucoup plu et je ne connaissais vraiment pas cet univers et cet instrument. Et j'ai essayé et j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir faire autant de sonorités différentes, surtout pour une jeune personne déjà, de pouvoir extraire autant de sons incroyables sur cet instrument. Donc ensuite j'ai commencé à en faire de temps en temps, de plus en plus. Et ensuite je suis rentrée vers 11 ans il me semble, dans la classe de Éric Lebrun au CRR de Saint-Maur. Et c'est là que j'ai commencé à en faire beaucoup plus sérieusement.
Les deux instruments, l'orgue et le piano, peuvent paraître proches au sens où ils ont en commun le fait d'avoir un clavier et des pédales, mais est-ce si simple de passer du piano à l'orgue ?
Eh bien non, ce n'est pas si simple que ça. Quand on est jeune, c'est plutôt simple et plus on avance dans l'âge, plus on se pose des questions. Donc maintenant, je trouve, enfin, ces instruments pour moi sont vraiment, vraiment différents. Là, le seul rapport, c'est les claviers, quoi. Donc voilà, aujourd'hui je trouve que c'est très intéressant de se poser des questions au niveau du toucher, au niveau du rapport de l'instrument. J'ai un rapport très différent entre ces deux instruments-là. Voilà, j'ai une approche différente aussi du travail, de comment on joue, comment on y réfléchit, quels sont les objectifs pour faire ressentir au mieux la musique sur ces instruments. Donc c'est des questions qui sont très importantes.
Quels ont été vos maîtres, vos professeurs tout au long de votre apprentissage de l'orgue jusqu'à aujourd'hui ?
Eh bien, tout d'abord Éric Lebrun, et ensuite je suis rentrée au Conservatoire de Paris avec Olivier Latrie, Michel Bouvard, Thomas Hospital et Maud Graton. Donc ça, c'est mes 5 grands professeurs qui ont été très très importants pour moi.
Est-ce qu'il y en a eu d'autres auparavant qui vous ont vraiment mis sur les rails, si on peut dire ?
Oui, il y a une personne qui a été extrêmement importante dans ma vie musicale, c'est Michel Bouédec, un organiste. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert l'orgue. Et c'est grâce à lui que j'ai été poussée à en faire davantage. Et il me suit toujours aujourd'hui énormément. On est très très proches. Et c'est quelqu'un qui est essentiel dans ma vie musicale et dans ma vie en général.
Vous avez une autre particularité, c'est que vous aimez vous produire en duo, aussi bien en tant que pianiste qu'en tant qu'organiste. Comme pianiste, vous jouez en duo aux côtés de la violoncelliste Maya Devane, avec qui vous formez le duo Esmeralda. Vous vous produisez aussi dans un étonnant duo orgue et piano, avec le pianiste Martin Jaspar. La musique de chambre, c'est quelque chose qui vous attire beaucoup aussi ?
Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup partager la musique avec les autres. J'aime beaucoup chercher du répertoire. J'aime beaucoup expérimenter comment ça peut marcher, un duo avec orgue. Et ça marche très très bien d'ailleurs. Avec violoncelle, le duo piano-violoncelle, c'est un classique évidemment. Mais c'est toujours un plaisir de jouer avec Maya parce qu'on se connaît depuis très longtemps aussi. Donc c'est très sympa. Et avec Martin Jaspar, c'est un duo qui peut être un petit peu atypique mais qui marche extrêmement bien. Et on s'est produit il n'y a pas longtemps à Luchon. À Bannière de Luchon, et ça c'est un duo qui marche parce qu'on fait plein de répertoires différents, beaucoup de transcriptions comme Gershwin, Rhapsody in Blue ou L'apprenti sorcier de Dukas. Et voilà, mais j'aime beaucoup partager la musique avec d'autres personnes, ça c'est quelque chose de très riche pour moi.
En parlant de duo, piano et orgue, est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà auparavant ? Moi j'en ai jamais entendu parler de duo, piano et orgue. Est-ce qu'il y a un répertoire d'ailleurs ?
Eh bien, il y a un répertoire. En fait, j'ai découvert ce duo grâce à Olivier Latrie et Éric Lesage qui ont fait un concert à Radio France. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais c'est génial de pouvoir faire les deux ensemble. Et il y a un répertoire qui est très large, que je ne connais pas encore entièrement, mais je sais qu'il y a un répertoire large. Il y a aussi Thierry Esquèche qui a composé Chorale Dreams pour piano et orgue. Il y a beaucoup de transcriptions. En musique de chambre pour orgue, en fait, il y a beaucoup de répertoires qu'on connaît très mal. Et c'est très intéressant de creuser dans tout ça.
Donc c'est un répertoire que vous comptez explorer, creuser, comme vous dites, dans les années à venir.
Oui, tout à fait. Oui, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Vous avez fait paraître il y a quelques mois, sous le label Rocamadour Musique Sacrée, un CD où l'on trouve les deux sonates composées par le compositeur allemand Julius Reutke, l'une pour orgue et l'autre pour piano. Nous allons écouter un extrait de la seconde. C'est le deuxième mouvement Allegro Sostenuto de la sonate pour piano en si bémol mineur de Julius Reutke.
Thank you.
le deuxième mouvement Allegro sostenuto de la sonate pour piano en si bémol mineur de Julius Rocque, un extrait du CD enregistré par Alma Bettencourt sous le label Rocamadour Musique Sacrée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce pianiste et compositeur allemand, mort prématurément de la tuberculose en 1858 à l'âge de 24 ans, n'est pas très connu du grand public. Est-ce que c'était votre idée personnelle d'enregistrer ces deux sonates pour piano et orgue sur le même disque ?
Oui, tout à fait, c'était mon idée, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. J'en avais parlé avec Olivier Latry et Thomas Hospital. Et en fait, je connaissais la sonate d'orgue, qui est très connue chez les organistes, mais pas du tout celle de piano, qui est beaucoup moins connue. Et quand j'ai découvert cette sonate, j'ai tout de suite eu l'idée de rassembler ces deux sonates sur ces deux instruments et d'en faire un seul disque. Et donc, c'est un projet que j'ai présenté au label. Et je pense que ça leur a plu, donc je l'ai fait et j'étais très heureuse de le faire.
Qui est ce Julius Rocque ? Je disais qu'il était vraiment très peu connu. Alors, c'est le fils lui-même d'un facteur d'orgue. Puis ça a été surtout l'élève de Franz Liszt qui apparemment l'appréciait beaucoup.
Oui, alors c'est un donc, jeune compositeur allemand qui a étudié avec Liszt à Weimar. Il en est fait mort très très jeune et on n'a pas beaucoup d'œuvres en fait de lui. Mais c'était en fait l'élève préféré de Liszt et Liszt à sa mort a dit, à la mort de Rocque, a dit que c'était une grande perte pour la musique parce qu'il avait beaucoup beaucoup de talent pour son âge. Et voilà, donc c'est sûr que c'est un compositeur qui est assez méconnu, mais moi c'est la musique qui me tient vraiment à cœur et qui me touche beaucoup. C'est très complexe, hein, c'est très torturé, c'est pas la musique pour rigoler quoi, mais j'aime beaucoup cet univers très sombre. Et ça m'a beaucoup appris de me plonger dans cet univers et aussi d'aller à Weimar, d'essayer les orgues, de voir comment ça sonne, comment ça sonnait à cette époque et de voir ce qu'il avait imaginé dans sa tête pour ces sonates-là.
Sa sonate pour piano, est-ce qu'on y sent l'influence de Franz Liszt très fortement ?
Ah oui, totalement. On sent vraiment qu'il admirait énormément son maître, tant bien dans la forme, tant bien dans l'harmonie, dans la conduite des phrases. C'est vraiment, on sent quand même qu'il y a une personnalité derrière. Il y a quand même une fougue de jeunesse, il y a quand même quelque chose qui est différent. C'est pas du Liszt copié quand même, mais c'est sûr qu'on y sent une influence énorme.
Liszt était un grand virtuose du piano et moi, il me semble que cette pièce est extrêmement difficile, très virtuose justement.
En effet, elle l'est vraiment, elle est très très dure. J'ai pris le temps de la monter, de bien la travailler parce que c'est une œuvre vraiment difficile. On apprend beaucoup. Parfois, il y a des moments où on se dit « Oh là là, comment je vais m'en sortir ?» Mais on s'en sort et ça vaut le coup.
Elle a été... Il me semble aussi assez rarement enregistré. J'ai le souvenir d'un enregistrement il y a quelques années par la pianiste lituanienne Mūza Rubackytė et l'organiste Olivier Vernet. Mais bon, chacun avait enregistré la sonate séparément, bien sûr. Vous enregistrez les deux. Ça a déjà été fait, ça. La même pianiste, la même organiste qui enregistre ces deux sonates sur le même disque.
Oui, alors ça a déjà été fait. Alors j'ai plus le nombre exact. Il me semble que c'est peut-être 6 fois. Soit 6 fois, soit 15 fois, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ça a déjà été fait, mais c'est vrai que par un grand nombre quand même. Mais je suis contente de l'avoir fait, parce que c'est quand même une expérience de rentrer dans cet univers ou dans deux instruments, c'est vraiment pas pareil. Parce qu'à l'orgue, on cherche une sonorité et un imaginaire sonore vraiment entièrement, parce que peu de choses sont marquées sur la partition, quelques petites registrations quand même, mais on a tout un univers à imaginer et à explorer. Et sur cet orgue, sincèrement, c'était vraiment un bonheur pour moi.
Est-ce que le fait de les interpréter, de les enregistrer l'une et l'autre à peu près en même temps, est-ce que ça nourrit chacune des interprétations ?
Oui, complètement. Ça nourrit vraiment aussi dans la simplicité de rendre cette musique simple, très facile d'écoute, même si c'est pas un message facile qui est transmis. Donc pour moi, ça a été très important. Et puis surtout, ça me faisait du bien aussi de passer un peu d'une à l'autre, de pas être plongé, parce qu'au bout d'un moment, on peut devenir fou dans une œuvre et de rester toujours dans cet univers de Rocque, mais de passer d'un morceau à l'autre, ça c'était vraiment bien.
Alors, une question que je ne vous ai pas posée, c'est sur quel instrument avez-vous enregistré la sonate pour orgue ? Et ça m'intéresse parce que je sais que ça s'est passé à Toulouse.
Oui, alors ça s'est passé à Saint-Sernin, à Basilique Saint-Sernin, sur le Grand Cavalicole. C'est un orgue que j'aime énormément, c'est un de mes orgues préférés, je pense. Et c'est un orgue sublime et c'était vraiment une chance pour moi d'enregistrer là-bas parce que j'avais beaucoup entendu parler de cet orgue et je n'avais pas encore eu la chance d'y jouer. Et de commencer à jouer là-bas par un disque, c'est quand même pas tous les jours. Donc j'étais très très heureuse. J'ai eu deux grandes soirées pour plonger dans cet orgue et pour chercher le maximum de possibilités et de couleurs qui pourraient être adaptées au maximum à cette musique. Et vraiment, ça a été extraordinaire pour moi d'enregistrer là-bas.
J'ai dans l'idée que celui qui a pu vous parler du Cavaillé École, le premier, c'est peut-être votre maître, parce que ça a été un de vos maîtres, Michel Bouvard. C'est lui le titulaire du Cavaillé École de Saint-Sernin.
Ah oui, c'est lui. Alors malheureusement, je l'ai eu qu'une seule année au conservatoire Michel Bouvard, mais c'était une année vraiment, vraiment extraordinaire, parce qu'on a beaucoup, beaucoup appris avec lui. Et oui, c'était génial de pouvoir jouer sur son orgue, parce qu'il en parle énormément, évidemment. Et surtout, tout prend sens, en fait, sur cet orgue. Il y a quelque chose de... En fait, si on l'écoute et qu'on écoute comment ça sonne, la musique prend sens. C'est assez impressionnant. De jouer, par exemple, un Vidor, de jouer un Franck, là-bas, tout prend sens. Et de pouvoir comprendre ce que lui comprenait, ce qu'il nous racontait en cours, c'était vraiment génial.
Sur ce disque, il y a donc aussi la sonate pour orgue en ut mineur, psaume 94, puisqu'inspirée de ce texte biblique. C'est l'œuvre la plus connue de Röpke. Est-ce qu'elle est célèbre aussi chez les organistes et assez souvent jouée? Je crois savoir que oui.
Oui, elle est vraiment célèbre chez les organistes. Elle fait vraiment partie du répertoire romantique, voilà, des grandes sonates. On a Adnos aussi de Liszt. Et donc, c'est un peu aussi une inspiration de cette sonate-là. Et j'aime beaucoup cette sonate parce que elle est, comment dire, elle est assez différente. Elle est très, très complète. Elle est très bien écrite. Et elle est très intense aussi. C'est de la musique très intense. Donc, c'est vraiment une œuvre qui fait partie du grand répertoire.
Comment vous la définiriez? Parce qu'elle me semble sombre et tourmentée, et pour cause, puisque ce psaume 94 évoque la justice divine et la punition des injustes.
Oui, c'est une sonate qui est très très sombre aussi. C'est, voilà, ça parle de vengeance, ça parle de choses qui ne sont pas très gaies. Et je trouve que la musique s'y prête tellement bien. Enfin, il a tellement su transmettre ce psaume dans sa musique. Et moi, c'est vraiment une œuvre que j'aime énormément. On y ressent beaucoup de choses. Et quand on ressent autant de choses dans la musique, c'est ça qui est fort, quoi. C'est d'essayer de transmettre, quoi, tout ce que nous, on ressent, de le transmettre le plus simplement à l'auditeur.
Est-ce qu'une des grosses difficultés, comme vous l'évoquiez à l'instant, c'est d'en rendre toutes les ambiances?
Oui. Surtout que voilà, dans cette sonate, j'ai beaucoup travaillé pour ne pas la sectionner. J'ai travaillé pour aller du début jusqu'à la fin, pour sentir un geste entier. Et c'est pas facile aussi pour les enregistrations, parce que si on fait trop de choses différentes, si on change un peu tout le temps, ben on peut s'y perdre dans cette sonate. Et donc, toute la grande première partie, j'ai essayé d'avoir un souffle entier pour rendre cette musique la plus claire et pour qu'on aille du début jusqu'à la fin sans interruption musicale.
Voici un extrait de votre enregistrement de la sonate pour orgue en ut mineur, psaume 94 de Julius Röpke, paru sous le label Rocamadour Musique Sacrée. C'est le tout début et vous l'interprétez donc sur l'orgue Cavaillé École de la basilique Saint-Sernin de Toulouse. le début de la sonate pour orgue en luth mineur, psaume 94 de Julius Rolke, joué par Alma Bettencourt, un extrait de votre CD paru sous le label Rocamadour Musique Sacrée. Pour terminer, nous allons bien sûr parler des moments d'orgue que vous proposez chaque jour à midi sur le grand orgue de la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. Je l'ai précisé également au début de notre entretien, ce sont des mini-concerts d'une trentaine de minutes. Quelles œuvres allez-vous y jouer? C'est selon votre inspiration et ça changera chaque jour?
Alors oui, je change chaque jour. Alors c'est un orgue de Dal d'Osso qui a beaucoup de possibilités. Alors il a une particularité, c'est qu'il a des jeux baladeurs, donc on peut les mettre sur n'importe quel clavier. Et il a été ajouté en 2019 à un récit expressif avec donc voix céleste, voix humaine, plein d'autres belles sonorités. Donc en fait j'ai beaucoup de répertoire à jouer. Donc je jouerai du Bach parce que c'est quand même un orgue allemand, baroque allemand de base. Mais je vais aussi ouvrir sur le répertoire post-romantique, donc j'ai joué du Rufflet aussi, du Litaise, du Dupré, du Bach évidemment, du Buxtehude, enfin plein de répertoires différents parce qu'il y a vraiment de grandes possibilités sur cet instrument qui a de très très belles palettes sonores.
Et est-ce qu'on aura droit aussi à des improvisations d'Alma Bettencourt?
Eh bien peut-être, on va voir, mais peut-être c'est une possibilité en effet.
Pour finir, à quoi va ressembler la fin de l'année 2025 d'Alma Bettencourt? Je crois qu'on va vous réentendre dans notre région, puisque vous allez donner un concert lors du prochain festival Toulouse les Orgues.
Oui, tout à fait. Je vais jouer pour le festival Toulouse les Orgues le 8 octobre pour la sortie du disque. Et je jouerai dans le programme, je jouerai la sonate de Rubke, ainsi que le Veni Creator de Duruflé. Je jouerai également du Reger. Je jouerai également le deuxième choral de César Franck dans ce programme.
Et vous allez retrouver à cette occasion votre cher grand cavalier école.
Et oui, je m'en réjouis, c'est tellement incroyable. J'ai eu l'occasion un petit peu cet été d'y retourner quelques jours par-ci par-là. Mais je suis tellement contente de jouer sur cet instrument, c'est toujours un plaisir. Oui.
Et puis une autre information importante, c'est décidément votre année, c'est que vous allez être artiste en résidence à Radio France l'année prochaine, c'est ça?
Oui, c'est ça, j'ai été nommée organiste en résidence à partir de septembre prochain. Et voilà, je me réjouis de cette nouvelle aventure qui va démarrer et c'est une chance extraordinaire pour moi.
Ça implique quoi pour un jeune musicien, une jeune musicienne en l'occurrence, d'être artiste en résidence à Radio France?
Eh bien, ça implique beaucoup de choses. Je vais tout d'abord avoir des récitals solo, des récitals de musique de chambre, des concerts avec orchestre. Je vais également avoir des activités pédagogiques à faire auprès des enfants, des familles et des scolaires pour expliquer ce qu'est un orgue, comment ça marche, faire écouter voilà, toutes les possibilités, les sonorités. Je vais également travailler avec les compositeurs pour des créations contemporaines, donc leur montrer toutes les spécificités de cet orgue précisément, voilà, de travailler au plus près avec eux, de leur montrer pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un orgue et comment ça marche, et également présenter l'orgue aux organistes qui viennent faire des concerts et qui ne connaissent pas forcément l'instrument. Donc ça implique plein de choses différentes, mais qui me réjouissent vraiment. C'est un travail qui est différent et qui me plaît, et c'est ça me plaît à l'orgue, c'est de pouvoir faire de la musique avec d'autres personnes, de rencontrer des chefs, d'expliquer ce qu'est un orgue dans des salles de concert, c'est de toucher un public qui peut être différent de celui d'autres lieux.
Transmettre, c'est important pour vous déjà à votre jeune âge?
Alors, je ne donne pas cours. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je sais que je voudrais sans doute le faire plus tard, mais en tout cas, faire découvrir cet instrument, c'est quelque chose d'important pour moi. Je pense que pour tout jeune organiste aujourd'hui, je pense que c'est une responsabilité de faire découvrir cet instrument qui a tellement de possibilités de montrer aux enfants ce que c'est, parce qu'en fait les enfants ils sont très très curieux, c'est assez incroyable, ils ont des milliards de questions à chaque fois, et ça m'intéresse beaucoup.
En France, je remarque que les organistes sont souvent des hommes. Alors enfin une femme, est-ce que ça va être important pour vous aussi de susciter des vocations parmi les jeunes musiciennes?
Oui, c'est vrai qu'on est de plus en plus de femmes organistes aujourd'hui et c'est assez génial. Bon, je me suis pas trop posé la question en fait, à vrai dire, mais je pense que oui, c'est important de faire découvrir cet instrument à tous les musiciens.
Merci beaucoup, Alma Bettencourt. Je rappelle que vous donnez les moments d'orgue du Festival de Rocamadour tous les jours à midi jusqu'au 26 août, à l'exception des 23 et 24. L'entrée est gratuite et je signale enfin à nos auditeurs qu'ils peuvent se procurer votre CD des sonates pour piano et orgue de Rolke sur le site www.rocamadourlabel.com. Rendez-vous demain sur Radio Présence à 13h30 pour une nouvelle interview d'un autre musicien programmé au festival. Excellent après-midi à tous à l'écoute de Radio Présence.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupris.